Il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
Robinet fermé, donc le quoi qu'il en coûte, le mantra économique de la pandémie chez nous, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Les entreprises, sauf celles qui sont encore très affectées par la crise, et ça concerne quelques filières, les entreprises donc ne sont plus perfusées. Le fonds de solidarité va s'arrêter progressivement au 30 septembre. On ne parle pas du tourisme d'affaires, donc on ne parle pas d'événementiel par exemple, mais c'est à peu près tout. On parle surtout désormais de sur-mesure, d'autant que la reprise est là, la croissance à 6% selon les perspectives que vous avez peut-être entendu comme moi. L'activité en France, ce sont les chiffres qu'ils disent, n'est pas loin de son niveau d'avant la crise du Covid. Mais vous avez peut-être entendu aussi monter les craintes sur les vagues de faillites qui pourraient suivre. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver face à ce que certains appellent des structures zombies, donc maintenues en vie par les aides jusque-là, mais qui pourraient bien s'écrouler sur elles-mêmes? Le remboursement des prêts garantis par l'État, par exemple, est-ce que c'est un souci? Est-ce que la croissance retrouvée permet vraiment à toute la machine de repartir sans dommage? C'est de tout cela que l'on discute ensemble ce soir avec vous qui êtes salarié d'une boîte déjà repartie par exemple, ou qui vous inquiétez pour les semaines à venir, avec vous qui avez une PME qui voyait disparaître le filet de sécurité. Quel risque face dans certains secteurs à la pénurie de main d'œuvre ou de matières premières? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est vous, Igor, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Igor, on vous écoute.
Eh bien, écoutez, moi je voulais témoigner sur la reprise économique qui pour moi est pas du tout là, mais alors vraiment pas du tout là. On nous fait croire que tout revient comme avant, mais je pense que je fais partie des structures zombies, c'est-à-dire que moi j'ai une petite société d'une dizaine de personnes, on est dans un secteur très particulier qui est le commerce de cuir, tout ce qu'il faut pour travailler du cuir. Aujourd'hui, on travaille avec les grands groupes du luxe que tout le monde connaît. Je ne sais pas si je peux les citer.
Bah, pas tous.
pas tous. Non, mais en tout cas, les principaux français.
Mais on voit bien.
Hermès et compagnie. Donc, eux continuent à nous commander. C'est très bien. Mais on a vu disparaître complètement notre clientèle d'artisans qui fabriquent des sacs à main, des ceintures et qui pourront les vendre sur les marchés dans leurs boutiques. Et puis surtout, les particuliers ne sont plus là non plus. Il y a, avant le Covid, on avait ouvert des salles de formation pour apprendre aux gens à bricoler un peu le cuir, pour surfer sur la vague du do-it-yourself. On n'a plus personne. D'abord, avec le Covid, on ne pouvait pas les étudier parce que pas sanitaire, enfin, restrictions. Et puis surtout, aujourd'hui, les gens, ils ont peur. Ils ont peur de dépenser leur argent, même si on nous fait croire qu'il y a plein d'économies. Les gens, ils ont tellement peur qu'ils ne veulent pas dépenser. Donc la reprise, elle n'est pas là. En tout cas, nous, on a tout ce manque de clientèle, artisans et particuliers. Et aujourd'hui, en plus, vient se corréler la problématique de trouver de la matière pour revendre. Donc on a des augmentations. Par exemple, on vend des billots de découpe qui sont faits en plastique. Au mois de mai, on prend 10% d'augmentation. Le 5 août, on prend 17%. Et avec des délais où on nous dit, c'est le nouveau prix, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra le livrer. On peut pas continuer comme ça.
Quand vous dites que les artisans ne reviennent pas, par exemple, pour l'instant, en tout cas, ne sont pas revenus, est-ce que, parce que les particuliers, c'est un peu plus compliqué de savoir où ils sont et ce qu'ils font, les artisans, est-ce que ça veut dire qu'ils ont fermé boutique, selon vous, donc les endroits où vous vendiez votre cuir, ou est-ce qu'ils sont pas repartis encore et donc ça peut revenir?
Non, en fait, l'analyse elle est la suivante par rapport au coup de fil qu'on donne à nos artisans avec qui on a des bonnes relations. Ils nous disent on a fait un bel été, mais pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire parce que comme on sait pas si les marchés de Noël vont être mis en place, comment ça va se passer. Donc je viendrai pas tout de suite. D'abord, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, il y en a une grande partie qui ont déposé le bilan, qui ont disparu. Faut être honnête.
Est-ce que vous disiez que vous aviez une dizaine d'employés? Pardon, Igor, après je vous laisse tomber, je vous promets, je vais pas vous harceler pendant trop de temps non plus. Vous disiez que vous aviez donc entre 8 et 10 employés, c'est ça? Est-ce que l'un des corollaires pour vous, du coup, ça veut dire que vous allez licencier dans une période, on va dire, à court terme, à moyen terme, ou est-ce que pour l'instant, vous arrivez à serrer les dents et vous dire on peut tenir encore et je me sépare de personne?
Alors pour l'instant, on a un de nos commerciaux qui est parti, qui a décidé, je sais pas, certainement avec le Covid, qui a décidé de prendre soin de lui, de changer de métier, de changer de vie. Alors, le paradoxe, c'est qu'on cherche du monde pour le remplacer, mais on trouve personne. Donc, non, le but, c'est qu'on, quand même de continuer. On arrive encore à faire les salaires, etc. Mais jusqu'à quand? Aujourd'hui, le qualificatif de zombie nous va bien. C'est-à-dire que, OK, on a fait un PGE comme tout le monde. Moi, j'ai fini de payer ma boîte en février de cette année. Et depuis, le crédit a été remplacé par le... j'ai payé ma boîte deux fois, quoi.
Merci beaucoup, Igor, pour ce témoignage, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce que vous venez de nous raconter, beaucoup à tenter d'expliquer. Merci vraiment pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Jean-Hugues Deminil est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de la CPME et bonsoir, Mathieu Plane. Vous êtes économiste à l'UFCE. C'est d'abord vers vous que je vais me tourner, Jean-Hugues Deminil. C'est l'un de vos gars, Igor, en fait. C'est peut-être une situation que vous voyez d'ailleurs régulièrement. Lui dit, moi, les chiffres, je les vois. Ouais, bien sûr, je lis les chiffres et je vois bien que, visiblement, l'économie va mieux. Il y a une reprise, c'est ce qu'on nous dit. On est revenu à des niveaux qui sont plus ou moins les niveaux d'avant Covid. Et lui dit, les autres, peut-être, moi, non.
Ben malheureusement, il y a la macroéconomie avec des indicateurs qui sont globalement positifs. Et puis après, il y a les situations vécues par certains. Et là, c'est un florilège. C'est-à-dire que c'est à la fois des difficultés parce que ce monsieur travaille notamment avec les professionnels de l'habillement qui ont beaucoup souffert, en particulier les indépendants. Il est concerné par la hausse du prix des matières premières sur le cuir. Il est également touché par les difficultés à recruter, puisqu'il cherche également à recruter quelqu'un. Et enfin, il s'inquiète sur le remboursement du PGE.
C'est vrai qu'il cumule un peu ce pauvre Igor. Mais il y a une chose que j'entends dans son témoignage, c'est effectivement les choses objectives que vous venez de rappeler. Et puis aussi, il y a cette espèce de peur diffuse, en fait, qui dit « oui, mais et si ?» C'est ce que lui répondent, par exemple, les artisans sur les marchés. « Et si il n'y a pas de marché de Noël ? Et si il n'y a pas tout ça ?» Est-ce que, et je vous poserai la question à tous les deux, Jean-Yves Duménil, est-ce que le « et si » dans les mois qui viennent, « et si une cinquième vague », jusqu'à quel point ça joue ça ? Jusqu'à quel point ça frappe ? En fait.
Vous savez, c'est très mauvais pour les entreprises, quelle que soit leur taille, le manque de visibilité. On a besoin, pour pouvoir investir, d'avoir confiance et d'être capable d'un minimum de prévoir ce qui va se passer. C'est vrai que, par exemple, vous citiez le cas des marchés de Noël. On a une difficulté aujourd'hui qui nous remonte de la part des gens qui sont commerçants sur les marchés parce qu'ils ne savent pas, par rapport à la situation sanitaire, si oui ou non, ils vont être autorisés à tenir les marchés de Noël. Or, les marchés de Noël, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Donc, c'est très compliqué.
Dans l'activité de notre ami Igor, c'est ce qu'on trouve effectivement dans toutes les
bien sûr. Et donc, si vous faites des stocks, si vous prévoyez de la marchandise à vendre sur les marchés de Noël et que vous n'êtes pas en capacité de la vendre, c'est catastrophique. Et puis, en plus, cette marchandise, vous devez la payer au moment, évidemment, vous l'achetez. Et ensuite, si vous ne pouvez pas la revendre, vous l'avez sur les bras. Donc, vous avez un effet ciseau en plus en termes de trésorerie.
Mathieu Plane, comment on fait ce distinguo effectivement qui existe entre micro et macroéconomie quand on voit effectivement des chiffres qui objectivement aujourd'hui sont de bons chiffres et peut-être une multitude de cas particuliers comme celui-là? Est-ce qu'on se dit que la vision qu'on a aujourd'hui de l'économie, est-ce qu'elle est faussée en fait? Est-ce que la vraie vision, c'est une vision peut-être à 4 ou 6 mois peut-être qui verra justement ce que deviennent les entreprises comme Igor? Comment on peut faire?
Je dirais pas qu'elle est faussée, en tout cas il faut rentrer un peu dans le détail de l'analyse, c'est-à-dire que effectivement, on se rapproche du niveau d'activité pré-Covid. D'une part, on n'y est pas totalement. Deuxièmement, c'est un rebond, donc c'est un rattrapage. C'est-à-dire, on ne crée pas de la richesse supplémentaire, et donc il faut éponger les pertes passées, ce qui est quand même pas facile. Et surtout, il y a deux choses, c'est que le choc a été d'une intensité qu'on n'a jamais connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et surtout très hétérogène. C'est-à-dire que on a des secteurs qui s'en tirent bien. Y compris le numérique, l'informatique, l'agroalimentaire plutôt, le BTP repart pas mal. Et à l'inverse, on a des secteurs qui sont plombés. Et notamment, il y a les secteurs, et le textile, l'habillement en fait partie. On a le matériel de transport, on a les loisirs, etc. L'événementiel, on le sait, tout ça. Mais aussi selon la taille des entreprises. Parce que effectivement, les petites boîtes n'ont pas forcément les reins aussi solides que des grosses boîtes. Et donc, peuvent avoir des difficultés aujourd'hui, en tout cas, à retrouver les niveaux d'activité d'avant-crise. Et ce que vous disiez juste, c'est qu'il y a un manque de visibilité. C'est-à-dire que, effectivement, les choses s'améliorent avec le vaccin, mais on n'est pas totalement à l'abri, effectivement, d'une rechute d'activité, de mauvaises nouvelles de certains côtés, des dispositifs d'aide, ils vont être prolongés pour certains secteurs. Mais il y a beaucoup d'incertitudes encore, et c'est vrai que pour l'investissement, et y compris pour les ménages, pour consommer l'épargne, les fameuses épargnes qui étaient mises de côté, c'est pas des choses qui sont très bonnes, même si, j'allais dire, macroéconomiquement, on est plutôt sur des bonnes nouvelles que sur des mauvaises.
Hein. Alors, c'est pas le cas de l'entreprise d'Igor, mais on a aussi beaucoup pointé du doigt ces entreprises qui étaient déjà de toute façon en difficulté avant la crise, qui sont reparties au fond parce qu'on a donné des aides, heureusement d'ailleurs, à ces entreprises-là, mais qui de toute façon étaient déjà en difficulté. Est-ce que c'est les premières à repartir en fait dans cette espèce de loi du marché qui parfois peut être terrible? Est-ce que c'est les premières à repartir en fait, ou est-ce qu'au contraire pas forcément? Peut-être que c'est aussi une manière pour elle, a été une opportunité pour rebondir. Ça existe, ça, ou pas?
Alors, disons que effectivement, ce qui est juste, c'est que dans un processus normal, l'économie de marché, il y a aussi chaque année un certain nombre de dizaines de milliers de faillites. Hein. Ça fait partie de l'économie de marché. Donc, les moins rentables finissent par mettre la question. Ouais. Là, on a mis l'économie sous cloche. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu peu de faillites. Mais par contre, quand on lève la cloche, là, on commence à faire le bilan des difficultés financières, des fameux prêts garantis par l'État, les 140 milliards, de la dette fiscale et sociale, et savoir est-ce que ces entreprises, qui pouvaient peut-être même avoir des difficultés avant crise, auront les capacités, les reins suffisamment solides et la rentabilité suffisante pour rembourser cette nouvelle dette. Donc ça, c'est les grandes incertitudes pour l'avenir. Je dirais, aujourd'hui, on a fait quand même un peu le plus dur, hein, parce que, enfin, d'une certaine façon, mais les difficultés, il y en a un certain nombre devant nous, et notamment la question de la dette privée, de son remboursement, c'est assez fondamental. Donc l'État a un grand rôle à jouer sur l'accompagnement, justement, sur le remboursement de cette dette PGE, et y compris sur les dettes fiscales et sociales.
Jean-Yves Dominil.
Ce qui a été dit est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, pour rembourser ce qui a été prêté, parce qu'il s'agissait de prêts, que ce soit le PGE ou les reports de charges sociales ou fiscales, il faut générer davantage d'activité et davantage de rentabilité. Donc les entreprises ne pourront pas simplement, avec le même niveau et la même rentabilité qu'elles avaient précédemment, éponger ses dettes. Et donc c'est important, et ce que nous on demande à la CPME, que par exemple le PGE puisse être, dans certains cas au moins, étalé sur une durée plus longue.
Là, dans certains cas, ça va jusqu'en 2026.
Aujourd'hui, vous avez un différé de remboursement, c'est-à-dire qu'il peut ne rien se passer pendant 2 ans. Mm-hmm. C'était 1 an initialement, on a obtenu que ça soit 2 ans. Et ensuite, c'est plafonné aujourd'hui à 6 ans. Donc vous voyez, quand il y a 2 ans de différé, ça veut dire que vous devrez rembourser l'intégralité sur les 4 années qui viennent. Et effectivement, ça représente une charge à ce moment-là qui est extrêmement lourde.
Alors c'est compliqué ce que je vais vous demander, mais est-ce qu'on a une idée en pourcentage du nombre de grandes fragilités, en fait, et qu'on pourrait, de certaines entreprises, et qu'on pourrait retrouver, donc, dans la catégorie des faillites, des mises en chômage, etc. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage que ça peut représenter, l'un ou l'autre, je vais pas vous piéger.
Ce qu'on sait du côté de la Banque de France dans les chiffres qui ont été donnés, c'est que à peu près 6%, en ce qui concerne les PGE, auraient des difficultés pour les rembourser. Et nous, on considère, et c'est ce que disait Mathieu Plane tout à l'heure, qu'il y a effectivement chaque année un certain nombre d'entreprises qui sont en ce qu'on appelle en défaillance, à peu près de l'ordre en moyenne de 50 000 par an. Et là, en 2020, il y en a eu beaucoup moins paradoxalement, puisque c'était 25 000. Donc on s'attend malheureusement à un effet de rattrapage. Et on craint qu'on ait de l'ordre de 70 000 entreprises en 2021 qui soient amenées à disparaître, ce qui effectivement sera extrêmement douloureux et compliqué pour les gens qui vivront ça personnellement.
Avant de retourner au standard, Mathieu Plane, est-ce que ça veut dire... Pardon, je vous en prie, allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose? Ma question c'était juste, mais vous ferez ça dans l'ordre que vous voulez, c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait fallu fermer le robinet moins vite, en fait? Donc laisser un petit filet d'eau, on va le dire comme ça pour filer la métaphore. Ou est-ce que de toute façon, à un moment, effectivement... il faut couper le filet, et pardon de le dire de manière aussi abrupte, mais il faut laisser le marché fonctionner, et parfois la crise aussi fonctionner.
Oui, alors voilà, à un moment donné, il faut effectivement retirer la cloche, c'est savoir quel est le bon timing. Il semble que l'économie est suffisamment robuste pour le faire, mais par contre, il y a des secteurs qui sont encore en grande difficulté, il ne faut pas les laisser tomber. Je crois que le gouvernement a l'air assez vigilant sur cette question-là. Le problème de maintenir des aides de façon infinie, c'est que vous risquez de subventionner des entreprises qui ne sont pas rentables. Mmh. Et donc la fameuse zombification de l'économie, c'est ce risque-là. Sur les risques de faillite, il y a des travaux qui ont été menés aussi par Bercy et le Trésor, qui chiffrent en général les risques d'insolvabilité à 3% en temps normal. Et là, disait que pour les PME, on pourrait monter à 9%, ce qui est quand même pas négligeable, et 12% dans la restauration au regard de la situation. Mais bon, tout ça, c'est quand même des hypothèses, parce que ça dépend beaucoup aussi de l'évolution de l'activité à venir et la demande des ménages en consommation, consommation de services, de restauration, de loisirs, qui permettent un certain nombre de secteurs ou d'entreprises de retrouver de l'activité. Ça, c'est important.
Parce que là aussi, on a l'impression qu'il y a eu, tout le monde a eu un bel été, entre guillemets, c'est-à-dire y compris la consommation est repartie, chacun est sorti un peu de sa boîte, y compris les consommateurs. Il faut voir ce que ça veut dire aussi pour les semaines qui viennent. Je vous vois faire
oui, globalement, mais malheureusement, il y a des cas particuliers. Si vous prenez par exemple la restauration ou tout ce qui est tourisme dans la région parisienne, il n'y avait pas de touristes cet été.
Oui,
donc eux, quand ils entendent ça, ils font des bonds de 3 mètres de haut. Inversement, ceux qui étaient les gens du tourisme sur les zones côtières ont fait effectivement un très bel été, comme l'été précédent d'ailleurs. Mais quand vous parliez d'aide, simplement, je crois qu'il faut aussi bien préciser les choses. Certes, ce sont des aides, mais en fait, ce sont des compensations à des mesures de restriction sanitaire qui étaient imposées aux entreprises. Et donc, le fameux filet de sécurité dont vous parliez...
Compensation est prêt, c'est-à-dire...
Ce n'est pas des cadeaux aux entreprises. Et il y a toujours des contraintes. Le pass sanitaire, on peut l'entendre sur le plan sanitaire précisément, mais ça peut représenter des contraintes pour certaines entreprises. Et donc, pour celles-là, il faut effectivement qu'il y ait une forme de compensation.
Alors, cela dit, là-dessus, ça ne change rien, le pass sanitaire. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire. C'était même...
C'est pas notre avis.
À votre place. C'est pas votre avis, le pass sanitaire.
Pas du tout. Nous, on a fait une enquête et on considère, dans les chiffres qui sont les nôtres, à peu près, on a interrogé 1000 entreprises, que une sur deux concernées par le pass sanitaire rencontrait des difficultés. Après, de quelle nature, de quel ordre, mais en tout cas, les choses sont malheureusement pas si simples.
Allez, retour au standard. On retrouve Eric. Bonsoir, Eric.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci de prendre mon appel. Eric, je suis président d'une PME dans le Jouet de 28 collaborateurs. Donc, on évoque la fin du quoi qu'il en coûte et la reprise à 6%. Très bien. Nous, on va rembourser notre PGE. Très bien. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est le niveau de marge opérationnelle, puisque c'était évoqué tout à l'heure. Il faut qu'on dégage de la marge pour investir à la fois dans perspectives d'embauche et puis dans des investissements importants. Et notre niveau de marge est très inquiétant parce qu'on a une hausse des matières premières, vous l'avez évoqué, mais nous avons aussi une explosion des coûts de transport maritime qui grève notre marge opérationnelle de façon très significative. Et donc j'alerte, et peut-être votre invité économiste pourrait nous éclairer, est-ce que aujourd'hui l'Europe intervient sur ce dossier d'explosion de coûts de transport maritime qui est très important pour les PME?
Merci beaucoup pour votre question, Eric. Mathieu Plane, c'est vous notre invité économique dont parlait Eric à l'instant. D'abord, pardon, moi j'ai une curiosité, pourquoi il y a eu une explosion du transport maritime, on le sait ça ou pas?
Alors, il y a deux choses, c'est qu'on a eu une réduction des capacités d'offres, c'est-à-dire que pendant un moment... on a gelé justement, entre guillemets, le transport maritime et qu'il a fallu reprendre. Et dans l'intervalle, il y a pu avoir... on n'a pas forcément retrouvé la même capacité d'offre et une demande qui a été très forte d'un coup. C'est-à-dire que le rebond économique dont on parle, il n'est pas franco-français, il est mondial. Et donc, quand vous avez une demande très forte pour un certain nombre, justement, de transports, et notamment le transport maritime, avec une offre qui est plus limitée, vous avez un effet sur les prix qui est assez naturel. C'est une règle de l'offre et de la demande. Et donc, effectivement, par contre, ce secteur-là se porte bien parce que il y a une demande qui est très forte.
Alors, la question derrière la question d'Eric était de savoir si on était tout seul là derrière ou est-ce qu'on pouvait effectivement compter sur l'Europe pour essayer d'aplanir ce différentiel-là.
Non, mais enfin, disons que là, on est vraiment sur des questions d'économie de marché. C'est-à-dire qu'on peut attendre beaucoup de l'État ou de l'Europe, mais là-dessus, c'est très difficile. On peut le rôle, à mon avis, des pouvoirs publics, c'est dans le quoi qu'il en coûte, d'essayer de limiter les effets de la casse économique, social, du tissu productif, des faillites, de la hausse du chômage. Maintenant, il ne peut pas réguler les prix sur l'ensemble des choses, y compris sur les matières premières. Mais on entend que, bien sûr, il y a des difficultés dans les coûts de production, surtout s'il y a des intrants importants de matières premières ou si vous avez besoin d'importer, comme dans le jouet, sûrement des jouets de l'extérieur, en tout cas de pays qui sont pays étrangers. Donc ça, c'est des difficultés, surtout qui se cumulent entre ces coûts d'approvisionnement, éventuellement des hausses de prix de matières premières et des difficultés même de recrutement dans certains cas.
Et j'allais vous demander, pardon, allez-y.
Ce qui a été dit évidemment est parfaitement exact, mais pour les entreprises directement, les sujets, il y en a deux. Il y a est-ce qu'ils sont capables de répercuter la hausse du prix des matières premières dans leur prix de vente et à ce moment-là, ils maintiennent leur marge. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. parce qu'ils sont confrontés à une concurrence au niveau mondial, par exemple, si on parle des jouets. Ça, c'est le premier élément qui est absolument majeur. Et puis la suite, c'est de savoir effectivement si ça va durer dans le temps ou si c'est simplement quelque chose de conjoncturel.
J'allais exactement vous poser cette question. Est-ce qu'on en a une sur la pénurie de matières premières, par exemple? Est-ce qu'on sait que c'est passager? Donc là aussi, il faut tâcher de serrer les dents et attendre. Ou est-ce qu'on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus long, voire pérenne? Qu'est-ce qu'on sait de ça?
A priori, c'est... Bon, je vais m'avancer, mais je pense que c'est quand même plutôt plus transitoire. Pour des raisons simples, c'est lié à la très forte volatilité de l'activité. L'activité a été plombée en 2020. Du coup, on a limité les capacités de production. Et d'un coup, on a une demande très forte pour les matières premières, y compris, alors d'ailleurs, les États-Unis rebondissent très fortement et sont un consommateur important de matières premières, la Chine aussi. Et donc, cette demande tire les prix vers le haut. Donc, il y a une, et où va retarder les délais de livraison. Je pense qu'à un moment donné, les choses vont s'assagir. C'est-à-dire qu'on n'aura pas des moins 8, plus 6 comme on a de volatilité de croissance. Et quand les choses vont un peu s'assagir, on va retrouver des prix d'équilibre un peu plus stables. L'inflation, elle est durable si vous avez une augmentation continue des prix. Donc là, pour le moment, le baril de pétrole est revenu, par exemple, un peu au-delà des $70, ce qui est à peu près le prix d'avant-crise. Mais le fait qu'il ait beaucoup baissé et remonté crée un contenu en inflation assez important.
Est-ce que le différentiel de croissance, le différentiel de retour aussi d'un pays à l'autre, y compris d'ailleurs entre nous et pays émergents, joue considérablement, notamment par exemple sur les matières premières? Est-ce que ça ralentit la croissance des uns et notamment la nôtre ou pas?
Non.
Et jusqu'à quel point?
Alors, on est bien sûr très interdépendants dans nos échanges. Là, pour le coup, c'est plutôt les États-Unis, à travers leur plan XXL, un plan de relance, qui ont une croissance très forte et qui peuvent tirer le reste du monde, et d'ailleurs qui ont des déficits commerciaux qui sont très forts. Là, ce qui se passe, c'est quand même que l'ensemble des pays, alors un peu moins en Europe qu'aux États-Unis, ont quand même mis beaucoup d'argent sur la table, à la fois pour sauver leurs économies, mais y compris pour relancer les économies. Et ça va être la question de 2021, fin 2021, mais surtout de 2022. C'est le relais après les plans d'urgence, c'est-à-dire les plans de relance qui vont accompagner la reprise, mais aussi transformer les économies. C'est pas juste l'idée d'avoir une simple reprise. On voit que le monde d'après-Covid peut être quand même assez différent sectoriellement sur la demande du monde pré-Covid. Et donc, il y a des secteurs qui risquent de connaître des difficultés, au contraire, d'autres secteurs qui émergent et qui vont accélérer.
On parle de la hausse du prix des matières premières, on a raison, mais il y a également les difficultés d'approvisionnement. C'est deux choses différentes et qui concernent également beaucoup d'entreprises. On estime à peu près qu'un tiers des entreprises sont indirectement ou directement concernées par des difficultés d'approvisionnement. Et dans certains cas, on peut avoir des entreprises qui risquent tout simplement d'être à l'arrêt faute de matières premières.
Dans quel secteur particulier, par exemple, les plus dans le rouge, si je puis dire?
Je vais vous donner un exemple très pratique. La mousse qui sert, vous savez, à l'intérieur de l'ameublement, des choses comme ça, la mousse, plus 48% sur un an. Donc vous voyez bien derrière qu'il y a des conséquences extrêmement pratique. Les difficultés d'approvisionnement également. Les gens qui fabriquent des combinaisons de plongée, aujourd'hui, c'est très compliqué de s'approvisionner. Quand vous avez une entreprise, vous avez besoin de plusieurs combinaisons, c'est très difficile de les trouver sur le marché. Vous voyez, c'est vraiment tous les secteurs d'activité, ceux auxquels on ne penserait pas nécessairement.
Absolument. Jacques nous attend depuis très longtemps. Pardon, Jacques, on vous écoute. Soyez le bienvenu.
Merci. Bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord...
Alors Jacques, attendez, je vais vous interrompre tout de suite parce que déjà vous hachez rien qu'en nous disant bonsoir. Donc je ne sais pas où vous êtes, mais éventuellement enlevez votre haut-parleur et on essaye comme ça. Allez-y.
Oui, voici. Oui, tout d'abord, pour avoir participé à la FNOR, à valoriser combien vaut un emploi sauvé, on arrivait à 200 000 euros environ. Il faut premièrement remercier le gouvernement et tous les gouvernements de la planète pour avoir, comme vous dites, mis sous cloche, parce que la catastrophe des catastrophes, c'est quand quelqu'un part au chômage. Mais ma question est de savoir, à la lumière de ce que l'on a fait, qu'est-ce que l'on tire comme conséquence pour produire autrement et en fonction de ce que l'on peut imaginer être une consommation autre. Étant entendu qu'on a remarqué, on a des études en cours pour montrer que les entreprises qui sont les plus sociales, qui privilégient le bien-être au travail et qui font le plus attention possible à leurs conséquences en matière de gaz à effet de serre, de pollution, de de ressources, si ça les concerne, de biodiversité, sont celles qui ont le mieux résisté.
Merci.
Donc, à vous, si vous pouvez.
Ben, on va poser la question à nos invités, Jacques. Merci beaucoup. D'ailleurs, d'abord, est-ce qu'on sait si c'est une réalité, si certaines entreprises, comme le dit Jacques, qui ont une autre philosophie, qui sont tournées vers la biodiversité, etc., ont mieux résisté que d'autres? C'est vraiment des choses qu'on peut savoir, ça, ou ça me paraît compliqué, mais
savoir,
voilà.
C'est possible, mais on n'a pas encore les éléments, en tout cas, suffisamment détaillé des effets de la crise. On voit à peu près au niveau des secteurs, parce qu'il y a une histoire d'exposition quand même à la crise. Et après, au sein des secteurs, est-ce que certaines entreprises ont mieux résisté?
Et c'est peut-être un mouvement de fond, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était déjà entamé. Ouais. Peut-être que la crise va accentuer le recours à tout ce qui concerne les circuits courts, par exemple, c'est-à-dire le rapprochement entre lieu de production et lieu de consommation. C'est quelque chose qu'on voyait déjà, qu'on verra sans doute un peu plus. Et puis, probablement que ce qu'on a pu vivre pendant les périodes récentes, que ce soit le télétravail, par exemple, ou la visioconférence, peut-être qu'il y aura des conséquences derrière, probablement.
Parce que Jacques nous parle de produire différemment. Est-ce qu'honnêtement, moi je me souviens très bien, au tout début du premier confinement, c'était un peu ce dont tout le monde parlait, c'est comme ça que les choses allaient vivre dans le monde d'après. Honnêtement, Mathieu Plane, est-ce que c'est pas un coche à côté duquel on est complètement passé, le produire différemment?
Au contraire, il faut le saisir, le coche.
Mais est-ce qu'on est vraiment en train de le faire?
Alors, je crois qu'il y a quand même une ambition. On parle à nouveau de souveraineté industrielle, souveraineté sanitaire. C'est pas des gros mots, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'effectivement une partie de notre industrie, peut-être trop partie à l'étranger, que les chaînes de production, il y a un éclatement des chaînes de production, et dès qu'il y a des difficultés, on voit qu'on a des perturbations qui sont très fortes dans les chaînes d'approvisionnement.
Et l'idée d'ailleurs, c'était pas de tout ramener en France, c'était de tout rapprocher.
Voilà.
En fait,
le problème, c'est comment vous relocalisez. C'est-à-dire que effectivement, ça peut passer par la fiscalité, mais pas que. Ça passe aussi par des protections aussi, on le voit, des droits de douane aujourd'hui dans certaines zones géographiques, on le voit en Chine, aux États-Unis. Il y a un discours en tout cas européen, un peu volontariste là-dessus, avec éventuellement la mise en place par exemple d'une taxe carbone aux frontières, de façon à rendre plus cher ce qui est plus polluant et qui vient de l'étranger. En tout cas, il y a un besoin en tout cas de relocalisation, de raccourcissement des chaînes de production, d'emplois locaux. C'est pas facile à faire, c'est évident, mais je pense qu'il y a un intérêt collectif et qu'il y a des prises de conscience là-dessus. Et le gouvernement, dans son plan de relance, a mis un certain nombre de dispositifs d'aide à la relocalisation. Certainement, c'est insuffisant, mais en tout cas, il y a un premier pas dans ce sens-là, quoi.
Et puis peut-être que sur le plan de relance également qui a été mis en place par le gouvernement, qui vise plutôt à encourager les entreprises et les industries qui ont des process décarbonés, ça, là encore, c'est quelque chose de fond qui va contribuer à ce que disait cet auditeur, c'est-à-dire comment on fait pour produire autrement.
Bastien est avec nous, on parlait de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure. Bonsoir Bastien.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors, oui, je voulais réagir par rapport à la pénurie de main-d'œuvre qui est dans la restauration, auquel je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que ça dépend énormément des régions. Déjà, moi je suis dans une région où il n'y a pas du tout de pénurie de main-d'œuvre. Et ensuite, je voulais aussi réagir par rapport à la fin des aides pour les restaurants. Et je trouve que vous avez très très bien réagi en me disant « Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser un petit filet d'eau ?» Parce que le pass sanitaire nous a fait beaucoup de mal à beaucoup de restaurateurs, je pense. Sauf ceux de la côte, des restaurants, comment dire, saisonniers, vraiment saisonniers, où les gens étaient déjà adaptés à ça. Et nous, petits restaurateurs de région, on a été vraiment très très impactés. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Et vous, Bastien, vous êtes dans la restauration. Est-ce que parce que je crois lire que vous êtes en train de changer de travail. Moi, je suis assez curieuse de savoir pourquoi vous switchez en fait, comme beaucoup d'autres, parce que c'est aussi ça l'une des raisons pour lesquelles il y a un souci de main d'œuvre. Pourquoi vous changez, vous?
Alors, je change de travail parce que j'ai trouvé une autre patronne qui m'a fait une proposition que je pouvais pas refuser. Parce qu'elle cherchait un cuisinier depuis longtemps, mais en même temps, à côté de ça, ma patronne actuelle a trouvé quelqu'un en moins de 3 jours.
Et vous êtes, j'entends chanter votre accent, vous êtes dans quelle région?
Dans l'Aveyron.
Dans l'Aveyron, d'accord, ok.
Voilà.
Eh ben écoutez, merci beaucoup pour votre intervention et pour vos questions, Bastien, qu'on pose immédiatement à nos invités. D'abord, effectivement, Jean-Yves Duménil, y compris dans la restauration, tout le monde n'est pas égaux, ni les restaurateurs, ni les bars, etc. Il y a des endroits de pénurie, d'autres endroits qui le sont moins.
Probablement, mais quand même, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout sur le territoire et malheureusement un peu dans tous les secteurs. Et quand j'entendais qu'un cuisinier a été recruté en 3 jours, tant mieux, franchement, je m'en réjouis. Mais quand on rencontre des restaurateurs, bien sûr, souvent, certains nous disent qu'ils ne trouvent pas de cuisiniers. Ils sont obligés de réduire le nombre de tables parce qu'ils ont du mal également à recruter des serveurs et des plongeurs. Donc là, en l'occurrence, je m'en réjouis. N'empêche que nous, dans les chiffres qui sont les nôtres, on considère qu'il y a à peu près une entreprise sur deux qui cherche à recruter et qui rencontre des difficultés pour le faire. Et que sur celles qui ont des difficultés, il y en a un certain nombre qui sont obligés purement et simplement de renoncer à des marchés. Donc c'est un vrai souci aujourd'hui, et tant mieux si c'est pas son cas.
Dans la restauration, on a l'impression quand même que c'est une lame de fond qui vient peut-être même du démarrage de la crise, voire peut-être avant, non, Mathieu Plane?
Oui, la restauration, c'est assez particulier aussi, parce que effectivement, elle a été quand même, c'est un secteur très exposé à la crise sanitaire. Certains sont dépendants du tourisme étranger, d'autres, au contraire, ont une activité qui est moins liée au tourisme. Donc on peut avoir des grandes différences selon les régions. C'est un secteur qui a été fermé pendant plusieurs mois, qui a rouvert vite, avec peu de visibilité, dans un moment saisonnier, donc avec des besoins de recrutement très forts. Donc c'est difficile pour les entreprises de s'organiser, recruter correctement, sachant que parfois, d'ailleurs, les contrats sont pas forcément très attractifs aussi. Il y a toute la question des salaires qui est sous-jacente à ça. Il y a une pénurie effectivement de cuisiniers qu'on retrouve assez fréquemment. Mais on a aussi cette difficulté, c'est aussi de recruter très vite avec des contrats courts, pas forcément très bien payés. Donc il y a une question aussi d'attractivité de certains métiers plus que d'autres. Mais c'est vrai que aujourd'hui la crise a quand même bouleversé pas mal de choses, et notamment les processus de recrutement, même s'il y a des tendances structurelles même de difficultés, de pénurie de manœuvre dans certains métiers. La question de la formation est posée, la question de l'attractivité doit l'être aussi.
Mais là aussi, moi je m'interroge sur l'immédiate post-crise dans laquelle nous sommes effectivement en ce moment. Est-ce qu'il se passera 6 mois après, y compris avec des gens qui ont le profil de Bastien, qui se disent je voudrais faire autre chose, et puis à un moment qui finissent par revenir en fait à leur case d'origine parce qu'il faut aussi travailler. Et je m'interrogeais en même temps sur la suite de la question de Bastien, en fait, Jean-Yves Duménil. Est-ce que dans la restauration, ou certains restaurants, peut-être pas tous, certains au restaurant, on coupe le robinet trop vite, en fait?
Ben, c'est un risque. Par exemple, on parlait de la région parisienne tout à l'heure. Ceux qui sont en grande difficulté, il faut absolument, et c'est impératif, qu'on maintienne des aides. Mais quand on dit le robinet se ferme, vous l'avez dit tout à l'heure, le fonds de solidarité s'arrêtera effectivement après le 30 septembre. Mais il y a ce qu'on appelle l'aide coût fixe qui va pouvoir intervenir au cas par cas sur les entreprises les plus en difficulté dans les secteurs concernés.
Et on est d'accord,
donc ça ne s'arrête pas brutalement quand même.
Et dans ce cas par cas, est-ce qu'on parle de n'importe quel type d'entreprise qui peut justifier de sa difficulté qui est liée au Covid, ou il faut effectivement rentrer dans le couloir de certains secteurs?
La France adore les couloirs et les secteurs avec les listes. Donc il y a deux listes. Il y a une liste S1 et S1 bis avec des métiers et des secteurs qui sont clairement identifiés, et il faudra appartenir à ces secteurs-là. Et puis on va avoir une difficulté supplémentaire, c'est que le fonds de solidarité qui était attribué précédemment, c'était une forme de forfait, et donc c'était attribué très vite et vous touchiez l'argent rapidement. Là, on va être dans le cas par cas, ce qui veut dire que chaque dossier va être examiné, que ça prendra évidemment beaucoup plus de temps avant de toucher l'argent et que pour certains, ça va être très compliqué en termes de trésorerie.
Philippe est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je vous appelle parce que depuis le début de l'émission, j'ai l'impression que, en fait, la discussion tourne autour de ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire que c'est la situation vue des patrons, ce qui est normal puisque ce sont ceux qui sont aux manettes de la production. Néanmoins, quand on parle de la politique de l'offre, il y a son pendant qui est la politique de la demande. Pourquoi est-ce que les entreprises, notamment lorsqu'elles sont en contact avec le gouvernement, n'insistent pas auprès de lui ou des autorités, des ministres concernés, etc., pour que le gouvernement pousse à l'augmentation des salaires, par exemple, pour les entreprises qui le peuvent? On sait très bien aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui ont les moyens d'accorder des augmentations de salaire. Ces augmentations de salaire, pour les salariés heureux qui en bénéficieraient, pourraient, eux, venir au restaurant, consommer, acheter, bref, financer et soutenir par solidarité toutes les entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté.
Merci pour votre question. Philippe, pardonnez-moi Philippe, Jean-Hugues Duménil, est-ce qu'il y a une marge, on va le dire comme ça, est-ce qu'il y a une marge d'augmentation des salaires, effectivement, pour faire gonfler le pouvoir d'achat?
Pour certaines entreprises, oui, ça a été dit tout à l'heure. Celles qui sont dans des secteurs d'activité où ça fonctionne bien, si elles veulent garder leurs salariés, puisqu'on est en pénurie.
Et certaines le font, d'ailleurs.
Effectivement.
Et heureusement, d'ailleurs.
Mais bien sûr qu'elles le font. Si vous êtes chef d'entreprise, vous ne rêvez que d'une seule chose, c'est d'être en capacité d'augmenter les salaires de vos salariés. Malheureusement, celles qui sont fragilisées, qui sortent de plusieurs mois de crise, ça sera beaucoup plus compliqué. Et puis, quand cet auditeur parlait de l'offre et de la demande, je crois, mais Mathieu Plane le dira mieux que moi, qu'il n'y a pas vraiment de sujet de demande aujourd'hui, dans la mesure où on le sait très bien, les Français ont largement épargné, c'est ça le paradoxe, pendant la crise, et donc il y a des bas de laine qui peuvent être réinjectés dans l'économie.
Mathieu Plane, et c'est vrai que c'est toujours une réalité, avec la même crainte peut-être que celle des entreprises dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une cinquième vague? Qu'est-ce qui se passe si...
Non, après c'est intéressant, c'est vrai qu'on ne peut pas regarder la demande d'un côté et l'offre de l'autre sans essayer d'établir les deux. C'est vrai que les salaires, c'est une variable de coût, mais c'est aussi une variable de pouvoir d'achat. Donc il y a quand même cette logique-là. C'est vrai que justement, jusqu'à présent, on a une dynamique des salaires qui est quand même assez atone. On a une faible croissance des salaires. La question, c'est est-ce que ces tensions salariales vont entraîner une augmentation des salaires et du coup du pouvoir d'achat. En revanche, c'est vrai qu'à travers la crise, les dispositifs d'aide ont été quand même pas mal calibrés pour préserver, je dis bien en moyenne, macroéconomiquement, le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de baisse du pouvoir d'achat, ce qui a même conduit à un grand paradoxe. Avec cette crise, c'est que les ménages ont mis beaucoup de côté en moyenne, c'est-à-dire qu'on a à peu près 150 milliards d'épargne Covid depuis le début de la crise. Donc les ménages ont sur leur compte en banque, alors les ménages plutôt en haut de la des catégories de niveau de vie, parce qu'attention, il y a des précaires bien sûr, mais en moyenne, il y a 150 milliards qui ne sont pas utilisés. Et la question, c'est comment réinjecter ces 150 milliards, c'est plus que le plan de relance. Le plan de relance fait 150 milliards, donc c'est 50% de plus que le plan de relance, de façon à soutenir la consommation et donc l'activité et éviter les faillites et le chômage. Donc c'est vrai qu'il y a une partie de cette épargne qui doit être mobilisée et réinjectée dans l'économie pour soutenir l'activité et en particulier les secteurs des services qui sont dépendants de cette de ce pouvoir d'achat, qui vont pas exporter leurs services à l'étranger et donc qui sont dépendants de la consommation locale.
Stéphane, c'est vous le dernier, mais bonsoir quand même et vous êtes évidemment le bienvenu. Promettez-moi juste d'essayer de faire court. Stéphane.
Oui, allô.
Ah ben voilà, vous voilà. On vous écoute, Stéphane.
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, Stéphane, allez-y. Ah ben voilà, ah ben on a perdu. Bah écoutez, on lui avait demandé de faire court, mais enfin on n'avait pas non plus demandé à ce point-là.
Encore battu.
À ce point-là quand même. Enfin, moi j'avais vu passer la question. Stéphane disait qu'il travaillait dans une PME et qu'il fabriquait des jouets. Et pour lui, en fait, puisqu'il, en pendant de l'auditeur précédent, l'année 2020 notamment avait plutôt été une très bonne année, comme quoi effectivement, y compris dans le même secteur, parfois il y a des différentiels importants, Mathieu Plane.
Non, ça, alors ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'on a vu notamment à travers les évolutions de 2020, des différents confinements, des secteurs qui s'en sont mieux sortis que d'autres, et notamment, par exemple, après le premier confinement, un très très fort rebond sur ce qu'on appelle les biens d'équipement. C'est-à-dire que les gens partaient plus en voyage, n'allaient plus au restaurant, n'allaient plus au spectacle. Par contre, sont restés beaucoup chez eux et donc ont acheté des canapés, des télévisions, ont acheté des vélos. Par exemple, les vélos est un secteur qui a beaucoup boomé. Donc on a vu des demandes qui ont été quand même très très différentes post-confinement. Et c'est vrai que du coup, on a ce risque aussi de substitution. C'est-à-dire que s'il y a un contenu en importation qui est très fort sur ces biens-là, qui peuvent être des biens importés à 90%. En revanche, par contre, quand vous allez au restaurant ou au spectacle, c'est de l'activité domestique, c'est de l'emploi local, quoi.
Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les deux. Merci à tous pour vos très nombreuses questions.